Bonjour et bienvenue sur la RAM dans cette émission Moment Partagé. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons Claude Lee. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler longuement de votre père aujourd'hui, Lee Longotsi, qui a quitté la Corée. C'était un immigré coréen qui est arrivé en France au début du siècle dernier. Il a quitté la Corée, il a presque 100 ans jour pour jour. Et il est arrivé en France donc en 1920 et il s'est installé. Il a vécu le reste de sa vie en France. Et nous parlons de votre père. Et pourquoi ? Bien parce qu'il y a un film lui est consacré qui est sorti il y a quelques mois et qui va être diffusé à Embrun au lieu ce samedi 25 janvier à 18h30. Le film s'intitule « Un tigre en exil ». Et donc il revient sur la vie, le parcours de votre père Lee Longtsi. Alors, votre père, il a quitté sa Corée natale. Il est originaire de ce qui est aujourd'hui en Corée du Nord, une région de Hamhung, la deuxième ville de Corée du Nord. Il est plutôt originaire des montagnes. Et oui. Donc il a choisi de quitter la Corée à l'âge d'une vingtaine d'années, un petit peu plus. Pour quelle raison est-ce que, d'après vous, est-ce qu'il a choisi de quitter son pays donc à l'âge de 24 ans à peu près ?
Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la Corée était occupée par les Japonais depuis 1910. Donc la Corée n'existait plus en tant que telle, en tant que pays. C'était le Japon qui avait annexé la Corée. Et l'occupation japonaise, c'était pas très drôle. Et notamment, mon père avait été formé pour être instituteur. Il avait pu faire des études malgré la pauvreté de sa famille. Et quand il a voulu commencer à travailler, la langue coréenne était interdite. Il fallait qu'il enseigne le japonais. Voilà, donc ça ne lui a pas plu. Il a changé de travail, il a travaillé un petit peu dans des bureaux du cadastre. Et puis, il y a eu un mouvement, le 1er mars 1919, il y a eu une révolte contre les Japonais, conduite par les intellectuels, les étudiants et une partie de la population, qui a été un mouvement très important et extrêmement durement réprimé. Et comme il avait eu en main des exemplaires de cette déclaration d'indépendance, ben il était menacé. Il a eu des amis qui ont été en prison. Enfin bon, et donc il fallait qu'il parte de Corée.
Donc il a choisi de quitter son pays. Comment est-ce qu'il s'y est pris pour quitter la Corée, donc qui était à l'époque sous l'occupation du Japon ?
Alors il avait un ami, Han Sur-yong, qui était passé par la prison et qui disait qu'il lui savait que on pouvait venir en France en passant par Shanghai. Il y avait à Shanghai à l'époque des concessions françaises et britanniques, et dans la concession française, qui était donc à l'abri de tout autre pays, c'est-à-dire notamment de police japonaise ou de la police chinoise, il y avait un espèce de gouvernement en exil coréen, des patriotes coréens qui étaient là-bas. Et 1920, c'est deux ans après la fin de la guerre de 1918, 14-18. Et la France avait un grand besoin de main-d'œuvre pour compenser les pertes de cette guerre mondiale. Et donc, elle envoyait des bateaux et il était facile, en fait, de venir en France comme ouvrier et même comme étudiant. Donc son ami Han Sur-yong savait cette filière. Donc ils sont partis de Séoul en train, le train existait déjà, vers le nord en passant par Pyongyang. Et puis c'est la ligne de train d'ailleurs qui vient de Chine, qui passe le fleuve Yalu à Sinunju. Donc ils ont pu passer à Sinunju, ils ont eu affaire à des pêcheurs qui les ont passés sur un bateau la nuit, je pense.
Clandestinement.
Oui, il est passé en Chine. En Chine, c'était de l'autre côté, c'est la Mandchourie en fait. Et à l'époque, la Chine était complètement partagée en différents royaumes combattants, disons. Enfin, c'était des quantités de chefs de guerre qui se battaient entre eux, qui essayaient de trouver des alliances. Donc, c'était une grande pagaille, mais il fallait rejoindre Shanghai. Il nous a jamais raconté comment il a fini par arriver à Shanghai.
Parce que c'était un long voyage, quand même.
C'était un long voyage. Bon, il y est arrivé sûrement au printemps. Et là, donc, ils sont restés quelques mois dans cette concession française avec d'autres Coréens. En attendant, il y avait un bateau qui venait de partir quand il est arrivé, un bateau français. Et puis, donc, il a pu partir en novembre sur un bateau qui s'appelait le Portos, un bateau des messageries maritimes françaises. Et pendant cette période là-bas, les Coréens lui ont établi donc une identité chinoise. De toute façon, c'est impossible de vérifier, comme quoi il était né à Shanghai d'un tel et un tel à telle date. Et avec cette identité chinoise, il pouvait avoir un passeport chinois et l'autorisation de venir en France. On a toujours le reçu de ce qu'il a payé au consulat français pour avoir la permission de venir en France. Voilà, il a payé 2 dollars et quelques. Et c'est là, d'ailleurs, que son nom, tel qu'il l'a porté maintenant toute sa vie en France, Li Longzhi, a été écrit en français, donc est fixé. Et lui, il tient à garder ce nom-là. Alors, les Coréens, maintenant, eux, ils orthographient et ils prononcent son nom un peu différemment. Mais nous, tous ces enfants, on préfère garder Li Longzhi parce que pour nous, c'est comme ça il a vécu sous cette identité-là. Il écrivait ça. Et dans la famille de ma mère, tout le monde l'appelait Li. Et voilà.
Donc Li Longzhi, qui serait né, alors sur le passeport c'est écrit 1898, mais a priori ce serait peut-être 1896, donc en Corée. Et qu'est-ce que vous savez, juste avant qu'il parte, de sa situation, de sa vie de jeune homme en Corée?
Alors il était né dans une famille très pauvre, en montagne, qui ne possédait pas de terre. Il a perdu sa mère très très jeune dans une inondation, enfin... Ici, on vit en montagne, on le sait, les torrents dévalent et il y a eu une crue qui a emporté la maison où habitaient donc mes parents. Le grand-père avait dit oui, il faut s'enfuir, il faut partir de là, mais plusieurs personnes étaient restées et sa mère avait voulu retourner dans la maison chercher quelque chose. Et elle a été emportée comme plusieurs personnes. Ça a été un drame épouvantable parce que des voisins ont accusé le père de mon père, donc responsable de la mort de toutes ces personnes. Je crois qu'ils étaient venus pour aider à la récolte du chanvre. Et puis, le père de mon père a confié son fils, bon, c'était son seul enfant à cette époque, aux grands-parents. Et il est parti en Sibérie pour essayer de gagner mieux sa vie, quoi. Il a dû partir. Donc mon père a passé une enfance recueillie par finalement un grand-oncle et une grande-tante qui n'avaient pas d'enfants. Il a pu aller à l'école et comme il était intelligent, il a très vite, à l'école, on leur apprenait le chinois classique. Et il s'est débrouillé pour savoir lire les poèmes en chinois. Et il y avait des personnes qui passaient régulièrement pour voir... voir ce que faisaient ses enfants. Et finalement, il a pu continuer des études grâce à cette intelligence. Mais il était d'une famille très, très pauvre. Après, son père est finalement revenu de Sibérie 7 ou 8 ans après. La famille le poussait à se remarier. Et il s'est remarié avec une jeune femme qui était un peu plus âgée que mon père, évidemment. Mais mon père ne s'entendait pas bien avec son père. Il a été très, très attaché à ses grands-parents, à son grand-oncle qui s'est occupé de lui quand il était petit. Mais avec son père, il s'entendait très mal. Alors, il a fait des études secondaires. Peu à peu, il s'est détaché de sa famille. Il avait trouvé moyen d'être hébergé comme l'école était à la ville voisine, à Amhung. Il pouvait être une espèce de pensionnaire, quoi, chez quelqu'un, chez un de ses collègues de l'école, et ne rentrer que chaque fin de semaine, peut-être à la maison. Voilà. Mais il raconte que c'était très pauvre. En période de soudure, par exemple, au printemps, on l'envoyait chercher des plantes en forêt. Et lui, quand il vivait en France, il disait, mais les Français, ils connaissent pas, mais il y a un tas de choses qu'on peut manger. Et moi, j'ai retrouvé ça ici parce qu'il parlait des pattes de canard, des chénopodes. Et il a mangé des chénopodes qu'il allait cueillir. Et moi, je continue. Quand je me balade l'été en montagne, ça m'arrive de ramasser, quoi, puisque ici, on en a, et c'est espèce d'épinards sauvages. Et à chaque fois que je ramasse, je pense à mon père qui, au moment du printemps, essayait de trouver à manger en forêt.
Donc, votre père a été interviewé en 1983, donc 3 ans avant son décès en France. Il a été interviewé par un ethnologue qui s'est intéressé à son parcours. Et au tout début de l'interview qu'on va écouter et qui, dont des extraits figurent également dans le film, eh bien, il raconte un petit peu son enfance en Corée.
Le mercredi 23 mars 1983. Je mets en marche le magnétophone, on va voir s'il marche bien. Voilà. Bien, allons-y. Alors, monsieur Lee Yong-jae, qui est né en juillet 1898 et qui est arrivé en France le 14 décembre 1920. Alors, oui. Parlez-moi de votre enfance, vous en avez déjà parlé tout à l'heure un peu, hein? Oui. Vous avez perdu votre mère à l'âge de 3 ans.
Oui, ça, c'est évidemment, c'est... Je n'aime pas beaucoup raconter ma vie, mais tout de même, c'est la réalité. Je suis d'une famille plus pauvre qu'on puisse imaginer de la Corée. C'est la conséquence des malheurs de mon grand-père.
Et qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-père alors?
Eh bien, mon grand-père, vous savez, je ne sais pas, quand il avait 14 ans, à ce moment-là, il y avait l'épidémie de peste. Je suis des Hamouns.
Alors, on vient d'entendre Lee Long-tsi interviewé en 1983 sur son enfance en Corée. Et dans cette émission Moment partagé sur la RAM, nous recevons l'une de ses filles, Claude Lee, qui est embrunaise d'adoption depuis une vingtaine d'années et qui nous parle donc de son père à l'occasion de la sortie du film Un tigre en exil, qui revient sur ce parcours de Lee Long-tsi. Alors, Lee Long-tsi a pris le bateau depuis Shanghai pour arriver en France fin 1920. Et puis, il est resté toute sa vie ensuite en France. Comment s'est passée son arrivée dans notre pays? Comment est-ce qu'il s'est intégré? Comment ça s'est passé, son arrivée dans ce pays qu'il ne connaissait pas du tout?
Alors, déjà sur le bateau, il avait un carnet, enfin, comment maintenant les migrants maintenant, ils ont leur téléphone portable. Lui, c'était un carnet sur lequel un compatriote l'avait aidé à apprendre l'alphabet français. Et donc, sur ce carnet, on le voit dans le film, il y a des pages où il y a écrit des choses à manger, ou bonjour monsieur, bonjour madame, je ne parle pas le français. Et puis avec la prononciation en lettres coréennes pour se débrouiller. Il y avait aussi des adresses, notamment l'adresse du lycée de Beauvais qui intégrait à ce moment-là des étudiants chinois où ils apprenaient le français pendant un an. Il y avait d'autres adresses, enfin il y avait beaucoup de choses et puis les rencontres qu'il a faites sur le bateau probablement. Et en débarquant à Marseille, il a voulu tout de suite travailler. Ils étaient un groupe de 21 Coréens, parmi toute une quantité de Chinois et de Vietnamiens, probablement, sur ce bateau. Donc lui, il dit qu'il avait besoin d'argent. Il avait dû payer, c'était son ami, Han Suryong, qui avait avancé la somme qu'il fallait donner pour pouvoir venir. Il y avait une caution à donner de 3000 francs. Et donc mon père, ça le souciait beaucoup, cette histoire de dette. Et donc il voulait travailler. Il avait dû entendre parler de travail à Montbard, donc dans la Côte d'Or. Il a travaillé après Noël, fin début janvier à Montbard, dans une métallurgie. Et puis le travail s'est arrêté assez vite et il est parti parce qu'il... avec un autre Coréen sur les champs de bataille de la guerre 14-18, dans la Marne, à Suip. C'est une région qui a été dévasté évidemment pendant la guerre, et il y avait toute une quantité, il y avait énormément de travail pour déblayer donc la ferraille, des obus, des cadavres, enfin n'importe quoi, pour essayer de faire revivre cette terre. Et là-bas, il a rencontré un autre groupe de Coréens qui eux venaient de Sibérie. Alors, il faut savoir, dans cette diaspora coréenne qui a eu lieu à cause de l'occupation japonaise, il y en a qui sont partis par la Chine, mais il y en a qui sont partis par la Sibérie. La Sibérie est toute proche de la Corée du Nord. Hein. C'est Vladivostok, c'est pas loin du tout de la frontière coréenne et chinoise. Donc, ces Sibériens avaient eu un parcours absolument extraordinaire. Ils ont traversé, ils étaient partis depuis plus longtemps que mon père. Ils ont traversé toute la Russie. Ils ont abouti à Mourmansk. Mourmansk, c'est une ville qui donne sur cette mer blanche, pas très loin de la Norvège ou de la Finlande. De Mourmansk, ils ont pris un bateau pour aller à Édimbourg. À Édimbourg, les Anglais n'en voulaient plus. Et ils parlaient de les renvoyer, ils étaient 500, il paraît, ces Coréens, et ils parlaient de les renvoyer aux Japonais pour que. Enfin, de les renvoyer aux Japonais, comme nous maintenant, on parle de renvoyer les migrants chez eux. Et la France, dans sa. Enfin bon, ça me fait un peu rire, a bien voulu en prendre 30 parmi ces Coréens. Donc il y a 30 Coréens qui venaient de Édimbourg, qui venaient donc de la Sibérie via tout ce trajet immense, qui se sont retrouvés à Suippes, donc sur les champs de bataille pour dégager de la ferraille.
Avec votre père, du coup.
Mon père les a rejoints. Ils ont travaillé, il y avait un baraquement. Je suis allée à Suippes il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a célébré le centenaire de ces événements et de la déclaration d'indépendance de la Corée. La télévision sud-coréenne est venue faire des reportages sur ces exilés coréens. Et il y avait un baraquement coréen, où il n'y avait que des Coréens. Mais très vite, mon père, ce travail de force ne lui convenait pas très bien. Et il a trouvé plutôt du travail dans des cantines, je crois. Il est revenu vers Saint-Denis. Enfin, peu à peu, de petit boulot, connaissant des gens. Il a fini par trouver un travail intéressant dans une clinique dans le 16e arrondissement à Paris, rue Boileau, à Paris. Et dans cette clinique, ils employaient quelques Coréens, quelques jeunes Coréens, comme brancardiers ou hommes à tout faire. Et ils étaient logés et nourris. Ils travaillaient à mi-temps, ce qui laissait le temps d'aller apprendre le français à la Sorbonne ou d'aller à l'Alliance française. Et puis, ils touchaient 100 francs par mois, plus 15 francs pour le vin. Enfin, c'était ce qui était dit dans ce truc, dans leur contrat, quoi. Et papa travaillait, je sais pas, un an ou deux ans dans cette clinique. Et ça lui a permis de bien apprendre le français. Il a même fait une licence. Enfin, il a peu à peu, il a continué. Moi, quand j'étais enfant, il continuait d'aller à la Sorbonne tous les jeudis. Ma mère était institutrice, les jeudis, donc maman était à la maison. Lui, il pouvait aller à Paris, à la Sorbonne, il a continué de suivre des cours. Alors, il a bien appris le français, et après, ce qui l'a intéressé, c'est la linguistique. Mais, donc, je reviens à ce travail à la clinique. Il est resté quelques temps, et après, dans ses compatriotes, une partie était allée en Allemagne, à Würzburg. À Würzburg, en Allemagne, il y a eu une énorme inflation, là, du fait du régime. Enfin, moi, je me souviens plus très bien, mais enfin, on parlait de brouettes qu'il fallait pour payer n'importe quoi, de brouettes de billets. Donc, les étudiants coréens qui étaient là-bas, ou les Coréens qui étaient là-bas, n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins avec ce que leur envoyait leur famille. Donc, deux de ses amis sont revenus en France, et pour les aider, il avait besoin de changer de travail. À l'époque, le travail, c'était facile, probablement. Il a trouvé un travail de valet de chambre chez un cinéaste, Marcel L'Herbier. Et là, il était payé non pas 100 francs par mois, mais 600 francs, ce qui lui a permis d'aider ses compatriotes. Il a pris une chambre alors en ville. Il a presque toujours habité dans le quartier latin, dans des petites chambres de bonne, des chambres au dernier étage des immeubles.
Et il a rencontré votre mère en 1935, c'est ça, si oui. Ma mémoire est bonne.
Alors, comment ça s'est passé cette rencontre? Comment ça s'est passé? Donc mon père a continué des travaux différents, mais il fréquentait justement dans le quartier latin un cercle international de jeunesse. C'était un cercle qui s'était créé à l'initiative de Quakers après la guerre, justement pour favoriser l'amitié entre les peuples. Donc c'était des rencontres entre étudiants venant
de l'étranger,
de différents pays. Donc mon père a fréquenté ces gens-là. Je me souviens que certains sont restés des amis quand on était enfant. Je me souviens de Jean Train qui était étudiant en Russie, de russe, de Leif Lidal qui était un Norvégien chez qui je suis allée quand j'étais adolescente parce qu'il avait invité l'un de nous à aller passer des vacances en Norvège. Des Botsaron, c'était un couple de Suisses qui ont eu des enfants qui avaient le même âge que nous, qui ont habité pas très loin de chez nous. Enfin, ça a été tout un cercle de jeunesse avec qui ils faisaient des sorties. On a retrouvé des photos où, par exemple, il est en montagne. Et moi, ça me rappelle ce qu'on fait maintenant quoi, avec les migrants. J'ai des photos des groupes d'Éthiopiens là, qu'on a emmenés au lac du Crachet ou des choses comme ça. Et puis, donc... L'été 35, ils sont allés dans la maison de Fred Barlow à Honfleur, un musicien qui était un cousin du grand-père de ma mère, du père de ma mère, Charles Quéclin. Charles Quéclin avait une maison à Villers-sur-Mer, une maison familiale depuis longtemps, et ma mère était dans cette maison avec sa belle-sœur et les neveux et nièces. Enfin, ses neveux et nièces. Sa belle-sœur était mariée au frère aîné de maman et ils avaient déjà eu 3 enfants en 35. Donc ma mère, Madeleine, était avec sa belle-sœur Jeanne à Villers, passant des vacances. Et Fred Barlow s'ennuyait un peu à Honfleur et il a emmené papa pour dire « Allez, on va aller voir mon cousin à Villers ». Donc ils sont venus à Villers, ils ont été très, donc ils ont fait connaissance comme ça. Et mon père a été tellement, attiré par cette famille et cette maison dans un jardin au bord de la mer, que le lendemain il est revenu voir maman, mais à pied, en venant à pied de Honfleur à Villers. Il y a Deauville entre les deux, ça doit bien faire 30 ou 35 kilomètres. Mais mon père était un grand marcheur. Et puis bon, en fait, ils se sont mis en ménage à la fin de l'été. Ils ont vécu à Paris dans la petite chambre de mon père. Et ma sœur aînée est née en juillet 1936.
Voilà. Et ils ont eu 5 autres enfants.
Et ils ont eu 5 autres enfants. Alors, on est 3 à être nés avant la guerre. J'ai une sœur et un frère qui sont nés juste après la guerre en 44 et 46. Et en tout dernier, mon petit frère Étienne, qui est né en 57. Enfin, mon petit frère, il fait 1m90, mais pour moi, c'est le petit frère. On était déjà tous adultes, ou à peu près, quand ce petit frère est venu. Voilà.
No.
C'était de la musique traditionnelle coréenne sur le RAM dans cette émission Moment Partagé, puisqu'il est question du parcours de Lee Longotsi, un Coréen qui a quitté son pays il y a un siècle, qui a rejoint la France, qui a vécu le reste de sa vie en France. Et nous sommes aujourd'hui avec l'une de ses filles, Claude Lee, qui nous raconte la vie donc de son père à l'occasion de la sortie du film Un tigre en exil, qui sera diffusé à Embrun ce samedi 25 janvier à 18h30 au lieu. Alors, votre père était donc implanté en France, il a fondé une famille, et il gardait quand même un lien, un intérêt pour son pays. Il continuait à s'intéresser à ce qui se passait de l'autre côté de la planète.
Oui, beaucoup. Il a continué de recevoir des lettres de sa famille jusqu'en 1939. Après, la Seconde Guerre mondiale a interrompu les communications. Mais il recevait des Coréens chez lui. Enfin, je me souviens, quand on était enfant, il y avait quelquefois des jeunes Coréens qui venaient et discutaient en coréen avec papa. Évidemment, nous, on n'y comprenait rien du tout. Mais c'était ça. Et au moment de la victoire, à la fin de la guerre 39-45, le Japon a dû quitter la Corée. Et à ce moment-là, ma mère nous a raconté qu'il avait pensé retourner en Corée, puisque les Japonais n'y étaient plus. Mais c'était impossible du point de vue matériel, puisque notre famille avait déjà 5 enfants. Et puis... donc ça n'a pas été possible. Et en fait, peu après, en 1950, c'est la guerre de Corée qui a éclaté. Et puis...
Vous nous rappelez un petit peu le contexte géopolitique?
Alors,
pourquoi
contexte
cette guerre
politique, c'est... En 1945, au moment où les traités ont été faits pour finir cette guerre mondiale, l'Allemagne, le Vietnam et la Corée ont été partagés en 2 zones d'influence. L'une sous influence américaine, l'autre sous influence soviétique. Et la Corée a été partagée donc par ce qu'on appelait le 38e parallèle. Au Vietnam, c'était un autre parallèle, et en Allemagne, tout. Bon, et vous savez très bien, on parle toujours de ça. Il y a toujours maintenant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et c'est de là que ça date. Et ça a été consolidé, malheureusement, par la guerre de Corée. Il y a eu ce partage, et... Mon père a déploré cela quand la guerre de Corée a éclaté, c'est-à-dire que les gens de Corée du Nord ont voulu réunifier la Corée en envahissant la Corée du Sud sous influence américaine. Ça a déclenché une guerre qui a ravagé la Corée de façon épouvantable, puisque la Corée du Nord a réussi à aller presque jusqu'à Busan, au sud, et puis inversement, et puis finalement le monde s'en est mêlé, l'ONU s'en est mêlé, il y a même des Français qui sont allés combattre en Corée dans les troupes de l'ONU, et un cessez-le-feu a été décidé en 1953, figeant en fait cette division.
Et depuis,
C'est comme ça. Et mon père avait publié dans l'Observateur de l'époque, donc en 1950, on l'avait interrogé sur cette guerre coréenne. Et je vais vous lire ce qu'il disait à ce moment-là. Il est bien difficile pour un Coréen de ne pas maudire ce 38e parallèle, frontière russo-américaine au sein de la Corée, cause initiale de cette guerre atroce pour les Coréens. Si la Russie et les États-Unis, en commun accord, n'avaient pas institué cette ligne de démarcation, il n'y aurait pas 2 États coréens, mais une nation coréenne non déchirée. Et plus loin dans cet article qui a été publié donc dans l'Observateur, il dit qu'il y a un peuple coréen. Pour le grand malheur du peuple coréen, depuis Yalta ou Potsdam, les puissances tutrices de la Corée, ainsi que l'ONU, ont pris la fâcheuse habitude de faire abstraction totale du sort du peuple coréen. Et cette division, ça a été le drame de mon père jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il n'a pas vu son pays réunifié. Nous, on ne le voit toujours pas. Et comme j'ai dit, je me demande si même mon plus jeune frère verra le pays réunifié. Plus le temps passe, moins ça paraît possible.
Et vous, c'est quelque chose qui vous touche également, comme
ah
votre
oui, moi,
père
ça me touche beaucoup. Je suis allée en Corée, je suis allée deux fois en Corée du Sud et j'ai voulu aller en Corée du Nord. Donc j'ai fait un voyage en Corée du Nord. C'était un voyage bon, extrêmement dirigé, etc., puisque c'est un pays communiste, etc. Mais quand même...
C'était à quelle époque ce voyage en Corée?
Alors j'ai fait un voyage en Corée du Sud en 2009, je crois, 2008, un voyage en Corée du Nord en 2010 et de nouveau en Corée du Sud en 2011. Donc j'ai rapporté beaucoup d'impressions et beaucoup de photos. Et après, j'ai voulu faire un album de photos des deux Corées, justement montrant ce qui vraiment était semblable. Avoir ces photos, on peut pas savoir si c'est Corée du Nord et Corée du Sud. Certaines, oui. Alors, il y a des pages où c'est comme ça. C'est les mêmes temples, les mêmes têtes de gens, les mêmes paysages montagneux ou de bords de mer magnifiques. La langue, enfin les panneaux qui sont inscrits. Par contre, évidemment, j'ai mis aussi des pages où c'est visiblement comment l'urbanisation galopante en Corée du Sud, enfin les immeubles à Séoul, à Pyongyang, évidemment, c'est pas du tout pareil. Il y a des photos différentes et des photos qui sont semblables. Mais pour moi, c'est vraiment un seul pays, même s'ils ont évolué très différemment politiquement. Et même du point de vue de la langue, il paraît que ça a évolué. Ils ont évolué différemment.
Mais le drame de la Corée, c'est de se retrouver coincé entre des grandes puissances qui...
Oui, c'est des grandes puissances qui ont décidé ça. Et c'est deux dictatures qui sont installées. L'une communiste au nord, avec Kim Il-sung et puis bon, sa descendance. Et au sud, c'était Syngman Rhee au début, sous influence américaine. Ça a été une dictature militaire extrêmement dure jusque dans les années 80. Bon, ils sont très bien développés du point de vue économique en Corée du Sud, mais à un prix humain et un manque de liberté d'expression qui a été quand même assez fort. Enfin, moi, j'ai lu beaucoup de romans coréens, j'ai regardé des films, de Corée du Sud, parce que de Corée du Nord, il y a peu de production, mais c'est vraiment frappant. C'est un pays qui a grandi très très vite du point de vue économique. Quand je suis allée en Corée du Sud, j'étais sidérée. Parce que je me rappelais ce que me racontait mon père de ce pays qui était pratiquement moyenâgeux, de montagnes, enfin, où il n'y avait rien, où il n'y avait pas... Enfin, c'était... les enfants étaient assis par terre à l'école, le maître les battait, et puis... Enfin bon, ça n'a plus rien à voir maintenant. Quand on va en Corée du Sud, c'est développé comme évidemment comme l'Europe ou comme les États-Unis. Moi, ça m'a fait un peu un choc, et j'étais très fière, en fait, que la Corée du Sud soit arrivée à ce niveau-là du point de vue économique. Mais c'est un pays qui a grandi trop vite. Il a du mal à se débarrasser du confucianisme, quoi, du fait que du patriarcat aussi. Les femmes n'ont pas une place très facile en Corée du Sud. Et puis, le rôle des très grandes... très grandes entreprises auxquelles les employés doivent vraiment respect, etc. Enfin, doivent être complètement dévoués. Le système d'éducation aussi, qui est très très lourd pour les lycéens, c'est quand même pas très drôle, quoi. Sinon, c'est un pays très très intéressant à visiter. Le pays a été ravagé par la guerre. Mais en Corée du Sud, ils ont eu les moyens de reconstituer des temples, des monuments, des choses comme ça. Et ils ont même gardé, enfin, après, ils se sont souvenus que la modernité, c'était pas tout. Et ils ont gardé des villages et des petites villes avec les maisons traditionnelles. Il y a des villages, on appelle Hanok Village, qui sont très, très intéressants à visiter et de garder leurs traditions. Mais tout ça au milieu de... Quand on voit d'une urbanisation absolument galopante. Mais ça marche très bien. On peut louer. Enfin, Internet marche très très bien. Donc j'avais réservé pour mon deuxième voyage à peu près tout depuis la France, les chambres d'hôtel, les transports, etc. Évidemment, c'est bien. C'est pas du tout le cas en Corée du Nord.
Vous sentez vous-même coréenne ou française ou un peu des deux?
Alors, moi je dis que je suis quand même très française parce que bon, je ne sais pas du tout parler le coréen. Mon père ne nous a rien transmis, ni la langue, ni la cuisine. ni les coutumes. De toute façon, lui, il était en révolte contre sa famille, contre son père qui voulait le marier. Il disait que ses croyances étaient les croyances, le culte des ancêtres, tout ça, c'était pas très intéressant. Non, il n'y croyait pas. Il trouvait que c'était des superstitions. Il était très cultivé. Il admirait beaucoup la science. On a tous été scientifiques. Enfin, mes frères et sœurs. Moi, non, j'étais qu'institutrice, mais j'ai une sœur chercheuse en physique, un frère prof de maths, un autre frère qui a fait de l'architecture. Enfin, et puis. On est une famille, enfin dans la famille de ma mère aussi, il y a beaucoup de gens scientifiques. Et lui, il admire beaucoup, il a lu la recherche, il lisait des revues scientifiques, ça l'intéressait beaucoup. Il s'intéressait énormément à ça. Et lui, c'était ce qui était rationnel. Ce qui fait que nous, on est élevés de façon complètement laïque, évidemment, avec aucun dieu, aucune croyance. La seule croyance, c'est en l'intelligence et l'honnêteté. Si vous voulez, c'est pas du tout.
Voilà. Donc plutôt française que coréenne.
Alors je me sens plutôt française, et encore plus maintenant que j'accueille des jeunes étrangers.
Un siècle après que votre père soit arrivé en France, oui. À votre tour, vous accueillez des étrangers.
Alors maintenant, oui, on sait depuis 3 ans, quoi, il y a cette fameuse crise migratoire. En fait, c'est une crise de l'accueil de ces gens qui passent la frontière ou qui arrivent par Vintimille, etc. Donc, vous savez très bien que dans les Hautes-Alpes, on accueille, on a quand même beaucoup d'étrangers de passage qui demandent l'asile ou des très jeunes mineurs qui voudraient être pris en charge. Donc, depuis 3 ans, j'accueille des jeunes étrangers chez moi, des jeunes exilés chez moi, qui ont divers statuts, demandeurs d'asile ou pas, mineurs, déminorisés, etc. Et à tous, je montre sur un atlas le parcours de mon père, je leur explique que mon père est étranger. Et ça, j'y tiens parce que pour moi, la France à des valeurs, la liberté, la légalité et la fraternité, surtout. J'ai été élevée en France, j'ai été institutrice, j'ai appris ça à mes élèves. Dans mon école de banlieue, on avait aussi plein d'enfants qui venaient des quatre coins du monde, mais l'école gratuite, laïque, obligatoire, c'était un instrument formidable d'apprendre à ces enfants venus d'ailleurs à vivre en France. Et à être tolérant et à connaître la culture des autres. Enfin, vraiment, c'est des valeurs profondes de la France que je trouve que nos gouvernements ne respectent pas tellement maintenant. Mais moi, je me sens d'autant plus obligée. Enfin, c'est pas obligée, c'est vraiment au fond de moi un devoir de mettre en pratique, si vous voulez, cette fraternité et de voilà.
Alors revenons juste, on arrive bientôt au terme de cette émission au film, qui est donc Un tigre en exil, qui sera diffusé, on le rappelle, samedi à 18h30 au lieu en face de la poste à Embrun, un film réalisé par Han Kyung-mi, qui est une journaliste sud-coréenne qui vit en France et qui a donc réalisé ce film où on voit des témoignages des 6 enfants de Lee Long-tsi qui racontent la vie de ce Coréen arrivé en France. Et donc, vous avez écrit un poème à propos de votre père, et je vous propose qu'on conclue cette émission avec la lecture de ce texte, donc à propos de votre père Lee Long-tsi.
Alors, ce texte s'appelle « Visage ». J'ai repris 2 photos. La photo d'identité qu'il avait, c'est la photo qui figure sur l'affiche du film. C'est la photo d'identité qui a été prise à Shanghai. Et une photo de mon père très âgé qui lit dans un jardin. Le visage de mon père sur la photo d'identité prise à Shanghai en 1920 pour son visa, barré dans le bas par l'arc de cercle du tampon en chinois. Le visage d'un jeune homme au teint mat, plus haut que large, les yeux ronds, les cheveux épais et rebelles, les pommettes hautes, sérieux, regardant droit l'objectif. Il regardait vers un avenir inconnu, au bout d'un long voyage vers un pays lointain. Aucun retour en arrière n'était possible. Le visage de mon père, 65 ans plus tard, devenu vieillard aux cheveux blancs, amaigri et ridé, penché, une loupe à la main pour lire la page d'un livre. Visage d'un homme proche de la mort, ayant vécu une longue vie loin de sa terre natale, sans jamais l'oublier, ni la renier. Une vie passée à apprendre à cultiver son jardin, à élever 6 enfants, à lire sans cesse. Ces deux visages sont très nets pour moi, mais j'ai du mal à retrouver le visage qu'il devait avoir pour nous quand nous étions enfants. Comme beaucoup d'Asiatiques, il est resté tel quel, sans beaucoup changer jusque vers 60 ans. Seuls les cheveux, toujours épais, ont blanchi. C'était un visage sérieux, sévère même. Il s'est adouci quand il est devenu grand-père, tenant sur ses genoux l'un ou l'autre de nos bébés. Il était parti de son pays déchiré par la guerre, puis occupé par les Japonais, laissant son père qu'il n'aimait guère, et la misère de sa famille sans terre. Ses seules richesses, savoir lire et écrire le chinois et le coréen, et la morale que lui avait transmise son grand-père, ne pas être avide d'argent, rester honnête, respecter les lettrés.
Merci beaucoup Claude Lee pour la lecture de ce poème et puis pour votre présence dans nos studios pour cette émission Moment Partagé. Et nous invitons eh bien, tous les auditeurs à aller assister à la projection de Un Tigre en Exil, un film très touchant, très émouvant sur le parcours de cet immigré coréen du siècle dernier, Lee Long-tsi, le 25 janvier à 18h30 au lieu en face de la Poste à Embrun. Et puis on souligne que c'est un événement entrée libre et les bénéfices iront à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Eh bien, merci beaucoup Claude Lee d'être venu dans nos studios aujourd'hui. Et je vous propose qu'on se quitte en musique avec Yoon Sun-na, une chanteuse de jazz coréenne contemporaine, pour conclure cette émission. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Kaşının